7h30, on sait que des dizaines de milliers de jeunes ont manifesté, bien sûr, au Québec, à Montréal et partout dans le monde pour, évidemment, protester, s'inquiéter de la lutte contre les changements climatiques, bref, de leur futur. J'en parle avec d'autres sujets aussi à l'ordre du jour ce matin, avec le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette. Monsieur Charrette, bonjour.
Bonjour.
Première question, vous n'avez pas participé à la manif. Pourquoi?
Une question d'agenda essentiellement. On a tenté de les rencontrer avant la manifestation et eux préféraient que ce soit après. Et à tout compte fait, c'était une bonne chose de leur laisser le champ libre vendredi, mais c'est une belle manifestation. Très heureux de les voir aussi nombreux se préoccuper pour la santé de notre planète.
OK, donc si vous aviez eu de l'espace dans l'agenda, vous seriez allé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et on est en contact avec les différentes associations. Il y a une rencontre, d'ailleurs, qui est prévue dans les prochains jours, cette semaine. Donc, le canal de communication avec les représentants est bien ouvert.
Mais là, je suis pas sûr que je vous suis... Je comprends que si vous voulez les rencontrer. Seriez-vous allé marcher dans la rue avec eux?
C'est-à-dire, je voulais pas prendre la place qui leur revenait cette journée-là. Pour nous, c'était clair que c'était une journée qui appartenait aux jeunes. Je les ai rencontrés le matin même, par pur hasard, une sortie d'entrevue. Donc, j'ai eu l'occasion de les saluer, mais on voulait réellement leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent s'exprimer à leur guise. Et c'était de très, très belles images. Là. Bien content d'avoir pu assister à distance à cette belle manifestation.
Okay. Vous avez dit des belles images.
Oui, parce que c'est une belle jeunesse. Moi, je regardais les différentes entrevues. Le nombre, d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est la manifestation à travers le monde qui a réuni le plus de jeunes. Si on considère l'ensemble des marches à travers le Québec, et même la jeune instigatrice qui est à l'origine du mouvement a pu republier des images provenant du Québec. Donc non, c'était une belle mobilisation.
Au-delà de l'image, je comprends, là, puis si on parle de choses sérieuses, parce que les jeunes, ça fait un mouvement de foule intéressant. Là. Pourquoi la CAQ, quand c'est la question de de l'environnement, on dirait que vous n'êtes pas crédible, on dirait qu'on ne vous croit pas quand vous dites que c'est important pour vous autres. C'est comme ça ne marche pas.
On a eu l'occasion de le mentionner. C'est vrai qu'on n'en a pas fait un thème central au moment de la campagne électorale, mais déjà dans le programme, il y avait plusieurs mesures qui étaient intéressantes, mais qu'on n'a pas présentées comme étant des mesures environnementales. Encore à ce jour, on est sans doute la formation avec le plan de transport collectif le plus crédible qui a été salué par une quarantaine de maires, notamment dans la région de Montréal. Et depuis l'élection, il y a déjà plusieurs de ces mesures-là qui ont été mises en chantier. Donc, on avait réellement de belles mesures qu'on continue de mettre de l'avant en matière de transport collectif. Mais non, on n'en avait pas fait un thème central.
Pourquoi?
En fait, on avait priorisé trois thématiques principales. L'éducation, la santé, l'économie, mais l'environnement, c'est très transversal. On fait souvent référence aux crédits du ministère de l'Environnement. On parle de crédits essentiellement de 200 millions, mais ce sont des crédits qui servent aux opérations du ministère. Les moyens sont dans les autres ministères. Et lorsqu'on additionne tous les argents que le gouvernement actuel,
okay,
la coalition...
OK, mais je vais vous donner des exemples pour que ça soit clair. Parce
volontiers.
Que y a beaucoup, là, je suis pour le transport collectif, je suis pour le... Mm-hmm. Tu sais, c'est des grands thèmes, mais ça veut... Pas dire grand-chose concrètement, là. Je vous donne des exemples. Le fonds vert, là, combien il y a d'argent là-dedans?
C'est plusieurs milliards depuis les dernières années. Et malheureusement, c'est un bel outil, mais malheureusement, le gouvernement précédent n'avait pas pris bonne note des mauvais bulletins qu'il recevait. La vérificatrice générale...
Non, mais ça, on sait tout ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire?
Ben voilà. Pour le fonds vert, je vous demande de patienter quelques petites semaines. On est en mesure de confirmer là, que les réallocations seront confirmées, mais également toute la notion de gouvernance pour s'assurer que chaque mesure appuyé par le fonds vert apporte des résultats concrets.
Mais
c'est ce que le précédent gouvernement n'a pas pu faire.
Dites-moi quelque chose. Là. Vous me dites, on va annoncer la gouvernance. On met des milliards. C'est la taxe carbone qui s'en va là-dedans. Je la paye, vous la payez. Je veux savoir ce que vous faites avec ça.
Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle le statu quo, pour nous, s'il était satisfaisant pour les libéraux, il ne l'est pas pour nous. Donc, on parle d'un fonds de plusieurs milliards. Ça nous laisse quelques semaines de notre côté valider un petit peu les orientations qu'on veut mettre de l'avant. Mais je vous dis, dans quelques semaines, on pourra se reparler volontiers là-dessus et être certain dorénavant que l'argent des contribuables apporte des résultats concrets. C'est un bel outil, okay. Mais malheureusement, on l'a laissé aller ces dernières années.
La crise du recyclage. Encore en fin de semaine, New York Times, je ne sais pas si vous l'avez lu l'article, sur les villes à travers les États-Unis qui abandonnent le recyclage ou qui carrément enfouissent les déchets dans ce qu'on appelle le classique, là, même si ce sont des trucs de recyclage. Est-ce qu'on vit une crise de recyclage au Québec?
Oui, malheureusement, on l'a vécu au niveau du papier ces dernières années. On le vit en grande partie au niveau du verre. Bientôt, ce sera le plastique.
Est-ce qu'à votre connaissance, on enfouit du papier, du verre, du plastique dans des sites conventionnels?
Clairement, clairement. Et c'est là aussi où le bilan du précédent gouvernement est lamentable. Nous, ce que l'on dit, moi, j'avais trois priorités. Quand le premier ministre Legault m'a affecté dans ces fonctions-là, revoir le fonds vert, une question de quelques jours, quelques semaines. Ensuite, tout ce qui est la gestion des matières résiduelles au Québec, on récupère très, très bien. C'est au moment du recyclage qui, malheureusement, en perd beaucoup.
M. Charest, ce que je veux savoir ce matin, là, les auditeurs qui remplissent des bacs, qui font le tri, hein, quel est le pourcentage qui va au recyclage puis quel est le pourcentage qui va au dépotoir?
C'est variable selon les produits.
En gros?
Pour le verre, c'est là où l'amélioration, on est à moins de 50 % qui est véritablement recyclé. Donc, il y a réellement place à l'amélioration. Donc, ça fait partie des priorités qui avaient été identifiées. Au niveau du recyclage, on veut réellement très prochainement arriver à compléter le cycle, ce qui fait que oui, on le récupère, mais faire en sorte qu'il ne se retrouve pas au niveau de matières d'épandage, par exemple dans les dépotoirs, comme c'est le cas actuellement. Donc, on veut redonner vie au verre et c'est probablement un des produits qui se recycle le mieux.
Mais actuellement et depuis longtemps, les Québécois font le tri, puis finalement, ça donne plus ou moins de résultats.
On n'a pas un bon bulletin à ce niveau-là et c'est pour ça que j'ai mentionné une crise de confiance au niveau du recyclage. Comme citoyen, on met beaucoup d'efforts effectivement à tenter de mettre le plus d'éléments possible dans notre bac bleu. Mais lorsque l'on sait les chiffres qui sont publics, c'est là où la confiance publique peut être minée. C'est à ça qu'on s'attaque actuellement.
L'environnement, c'est aussi l'agriculture. C'est aussi l'impact sur la santé des gens. Ce matin, Radio-Canada publie un tableau sur un paquet d'organismes subventionnés par le ministère de l'Agriculture à 40, 44 % 50 % des organismes qui sont contrôlés par l'industrie et les lobbyistes dans l'industrie du porc, du sirop d'érable. On l'a vu dans le cas de l'agronome Louis Robert. Trouvez-vous ça normal que le privé et que les lobbyistes contrôlent des organismes de recherche?
Ce qui est amusant ou qui est bien pratique au Salon Bleu, André Lamontagne, qui est le ministre de l'Agriculture, est mon voisin. On parle énormément de ce sujet-là. Et cette semaine, en chambre à l'Assemblée, normalement, on devrait discuter pour établir un mandat d'initiative.
Je vous demande, trouvez-vous ça normal que les lobbies contrôlent la recherche au Québec? Payé à moitié par les fonds publics?
La réponse est non, je vous le dis très franchement, mais dès cette semaine, normalement, à l'Assemblée nationale, on devrait parvenir avec les oppositions à un mandat d'initiative pour se pencher directement sur la question des lobbyistes et des pesticides, parce que oui, ça fait grand cas au cours des dernières semaines.
Mais c'est votre gouvernement qui avait congédié le fonctionnaire agronome qui a sonné l'alerte sur les pesticides. Là, vous me dites quoi? Que vous allez former un comité sur les pesticides?
Non, en fait, c'était une décision administrative à la base, donc je ne reviendrai pas sur cet élément-là en particulier.
Mais au niveau... excusez-moi, votre collègue de banquette, M. Lamontagne, a d'abord dit que c'était lui qui l'avait congédié. Après ça, il nous a parlé d'une... Il y a eu comme l'intuition qui se passait quoi avec ce gars-là?
En fait, je peux pas parler à sa place. Ce que je vous dis, c'est que c'était à la base une décision administrative, mais plus important encore, au cours des prochains jours, cette semaine, normalement, on devrait, avec les oppositions, arriver à un mandat d'initiative pour se pencher sur la question de l'utilisation des pesticides, parce que oui, c'est préoccupant.
En résumé, là, pour le fonds vert, il faut que j'attende. Pour le recyclage, il faut que j'attende. Puis les pesticides, il faut qu'on attende.
Bon, en même temps, la patience peut avoir sa vertu. Moi, ça fait quelques semaines à peine que j'ai été nommé.
Mais
on arrive avec de beaux résultats. Et on a un rendez-vous assez important au cours de la présente semaine aussi, soit le dépôt du budget.
OK. Est-ce que vous vous pincez parfois avec les ministres à vocation économique?
Pas du tout. On a au niveau de la coalition une vision économique.
Êtes-vous notre police d'assurance verte au Conseil des ministres ou si on regarde les ténors de l'économie puis du trésor puis que...
Je suis loin d'être la seule police verte, je dois vous avouer. On a une belle cohérence au niveau et du caucus et du conseil des ministres sur cet enjeu-là.
Vous seriez prêt à vous battre sur des principes, là, de dire, moi, là, je pense ce projet-là, on ne devrait pas l'approuver comme ministre de l'Environnement, puis que les autres vous poussent en disant, non, écoute, c'est des jobs.
Tout à fait. Ou poser des questions, des conditions. On l'a vu il y a quelques jours avec une entreprise minière sur le côté de l'Abitibi, notamment. Et je vous rassure, et je suis sincère en disant que je ne suis pas le seul, au contraire, au autour de la table, avoir ces préoccupations-là. Mais on a un cadre ou une vision très pragmatique à la Coalition Avenir Québec et il n'y a aucune contradiction entre le développement économique et la protection de l'environnement.
En théorie, en pratique, des fois,
c'est-à-dire
ça
en, autant qu'on a une vision pragmatique de la chose.
M. Charrette, merci beaucoup d'être venu.
Un réel plaisir.
Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 7h41.